Bonjour à tous, vous allez bien? Oui, vous avez vu, on est au mois de novembre, on est le 6 je crois, et il y a encore des fleurs, c'est formidable, du soleil, c'est formidable. Bon, on peut quand même plus se baigner dans la piscine, hein, c'est plus possible. Hein. Il faudrait... J'espère que vous allez tous bien, vous qui nous rejoignez sur Internet. On va lire Hébreux chapitre 11, c'est le chapitre de la foi. Alors, on commence par le verset 33. Oh non, on va commencer au 32. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, et des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Amen. Voilà. Seigneur, je te prie de bénir cette parole, que mes frères et sœurs puissent saisir des vérités fondamentales au sujet de la foi et qu'ils ne se laissent pas influencer par des choses qui sont erronées. Au nom de Jésus. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu que ce texte soit dans son livre? Ben, il l'a voulu parce qu'il veut que vous et moi, nous sachions que si nous avions la foi, le vêtement de la foi, comme ces gens, nous serions comme ces gens, nous vivrions des choses comme ces gens. La foi, c'est quelque chose qui a à voir avec le mental, avec la mentalité, si vous préférez. Si vous avez cette sorte de mentalité, ce sont des choses merveilleuses qui vont s'accomplir dans votre vie, comme dans la vie de ces hommes et de ces femmes dont nous venons de parler là. Alors, jusqu'au 1er juin 1968, j'ai fréquenté mon église nationale suisse. Ouais, évidemment, je suis né de parents protestants faisant partie de l'église nationale suisse. Alors, j'y allais, mais bon, mon père me disait, puis va si tu veux, moi j'y crois pas. C'est pas tellement qu'il croyait pas en Dieu, mais il croyait pas dans les pasteurs. Je dois tenir ça de lui. Enfin, le pauvre. Il a quand même, moi je l'ai vu un jour prier quand même. Hein. Enfin, n'étant pas satisfait de ce que j'entendais dans l'église, c'est pas que c'était faux, mais ça me satisfaisait pas, ça m'apportait pas grand chose. Eh bien, un jour, j'ai décidé, je veux voir chez les catholiques, et j'ai demandé un rendez-vous avec un prêtre, je me rappelle, à Lausanne, et c'était tellement compliqué, j'ai rien compris, je me suis dit, c'est trop compliqué pour moi, c'est... Pour devenir catholique, c'était effarant, non, je pourrais jamais, c'est pas possible, donc j'ai bâché ça. Et puis, je suis allé dans je sais pas combien de sectes, de machins et tout. Et je me rappelle qu'avec mes copains de l'époque, on allait chez un monsieur, je sais plus comment il s'appelait, c'était Roger, je sais pas comment. On y allait tous les samedis après-midi, puis il nous parlait de la Bible, c'était très bien, c'était très intéressant, mais bon. Tous ces gens que je rencontrais, à l'église nationale suisse, ou dans l'église catholique, ou dans les sectes, avaient tous un point commun, ils avaient la Bible. Et tous disaient que la Bible, c'est la parole de Dieu. Alors, en bon protestant de l'église nationale suisse, j'ai donc fait mon catéchisme. D'abord, il faut savoir que à l'école primaire, on étudiait toutes les semaines la Bible. Et tous les lundis matins, on était interrogé sur un texte qu'on avait dû étudier et on était noté. Moi, je me rappelle, j'ai toujours mis mes carnets de notes et on voit religion 10 sur 10. J'aimais ça, je trouvais que c'était bien, j'aimais beaucoup lire la Bible. Et puis ensuite, j'ai fait mon catéchisme. Alors, le catéchisme chez les protestants, c'est de 12 à 16 ans. Et j'ai fait ça, donc toutes les semaines, j'allais voir le pasteur, Monsieur Honchot, à Cuilly. Hein, c'est vieux, il doit être décédé, le frère, là. Et puis donc je lisais ma Bible, et puis comme je l'aimais pas trop ce pasteur, il m'agaçait un peu, alors je lisais ma Bible surtout pour pouvoir lui poser des questions un peu embêtantes auxquelles j'étais sûr qu'il n'allait pas pouvoir répondre. J'étais pas gentil. Puis en lisant la Bible, quand même, je découvrais une chose, c'est que il y a eu des gens qui ont vécu des miracles, des gens qui parlaient avec Dieu et à qui Dieu parlait. La Bible, elle est remplie d'histoires, d'aventures extraordinaires, de choses vécues entre Dieu et les hommes, et les femmes et les enfants. Par contre, dans les églises et sectes que je fréquentais, il ne se passait jamais rien. Dieu ne parlait plus, c'était le pasteur, ou c'était le curé, ou c'était le gourou qui parlait, mais il parlait de quoi? Ben, il racontait des histoires vécues par les gens dont la Bible parle. C'était très bien, mais il se passait rien. C'est comme si il y a eu un moment où Dieu a arrêté de parler, arrêté de guérir, arrêté de faire les miracles, arrêté d'ouvrir la mer Rouge, arrêté de... Jamais aucun ne parlait de la part de Dieu, jamais quelqu'un parlait de miracles vécus dans la semaine passée. Alors je me posais la question, quand est-ce que Dieu a cessé de faire des miracles, cessé de parler aux gens, et pourquoi est-ce qu'il y a un texte dans la Bible qui nous parle de ça? Et il y a un brave pasteur qui m'a dit, écoute Michel, nous allons lire 1 Corinthiens 13 et tu vas comprendre. 1 Corinthiens 13, versets 8 à 11. Alors, nous avons pris la Bible et il m'a fait lire à haute voix, et voilà ce qui est écrit. 1 Corinthiens 13, 8 à 11. La charité, c'est-à-dire l'amour, ne périra jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, le fait de parler en d'autres langues comme les disciples du jour de la Pentecôte, ça cessera. La connaissance disparaîtra, ah bon? Car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Et le plus sérieusement du monde, il m'a dit, ce qui est parfait est venu le 6 avril 1909, et il a manifesté tous les dons surnaturels dont la Bible parle, jusqu'au 24 décembre 1965, et là, il est mort. Et depuis, eh bien, il n'y a plus de miracle, et Dieu a tout dit. Il n'y a plus rien à dire. Alors j'ai demandé, mais qui est cette personne parfaite qui est venue et dont vous me parlez? Et il m'a répondu, c'est William Marion Branham. Il dit, Paul a annoncé, quand ce qui est parfait sera venu, William Marion Branham, il n'y aura plus de prophétie, plus de miracle, tout sera terminé. Ah bon? Alors, moi j'ai un esprit logique, j'ai dit, mais s'il n'y a plus de miracle, pourquoi vous faites des réunions de prière? Et il m'a dit, il m'a cité un verset où il dit que Jésus dit qu'il faut prier sans cesse. Alors, les miracles ont cessé, mais nous devons prier quand même, sans cesse. Nous prions donc sans cesse, même si Dieu ne répond plus. Alors je l'ai regardé avec mes yeux tout ronds et j'ai pensé, la religion, c'est vraiment une idiotie. Et je ne suis plus retourné dans les églises. Jusque au jour où j'ai rencontré Raphaël, mais ce n'était pas dans une église, il avait loué une maison, une salle dans la maison du peuple à Lausanne, et je suis allé par curiosité, parce que c'était un gitan, et parce qu'il jouait de la guitare, et qu'il avait bien parlé à la radio, et que voilà, ça m'avait touché. Mais lui, il avait la foi comme les gens de la Bible. Et dans toutes ces réunions, j'ai vu Dieu répondre à la foi de Raphaël Duval, le gitan, le prédicateur, comme Dieu le faisait au temps de Gédéon, de Barak, de Samuel, de Samson, de Jephté, de David et de tous les autres prophètes. C'est-à-dire que quand Raphaël priait, il se passait quelque chose. Il y avait des miracles. La foi en Dieu fait bouger le bras de Dieu. Ce n'est pas la prière. Parce que vous pouvez prier sans foi. Hein. Alors j'en ai parlé à mon pasteur de l'Église nationale, entre-temps on avait déménagé, et c'était le pasteur Gander de Puydoux. Et lui, il était un petit peu plus ouvert que la moyenne des ours. Et il m'a donné la clé de l'église où je pouvais aller prier avec mes copains, mes copines. Et puis, on voyait des miracles extraordinaires. Et chaque dimanche, il m'a donné la charge de parler aux enfants au sujet des miracles d'il y a 2 ou 3 000 ans, mais aussi des miracles que je vivais dans la semaine. Donc je faisais ce qu'on appelle l'école du dimanche. Dans l'église protestante, on a ça, l'école du dimanche. C'est-à-dire que pendant que les parents sont au culte, eh bien les enfants sont dans une autre salle et il y a quelqu'un qui s'occupe d'eux pour faire ce qu'on appelle l'école du dimanche. Ça, c'était comme ça dans l'église nationale suisse. Mes frères et sœurs, ce qui est parfait n'est pas encore venu. Ce qui est parfait, c'est ce que nous attendons, c'est-à-dire Jésus lui-même. Il n'y a que Jésus qui soit parfait. J'aime beaucoup William Branham, j'ai appris beaucoup de choses avec William Branham, mais il est loin d'être parfait. Il y a des choses qui sont imbuvables, ne serait-ce que ce qu'il dit au sujet des femmes. En fait, quand Jésus reviendra, il n'y aura plus besoin de prophéties, de miracles. Bien sûr que non, il sera là. Il sera là, Jésus sera là. En attendant que Jésus revienne, et c'est ce que nous attendons, il y a 2 choses que je tiens à dire. 1, si vous allez à des réunions de prière et qu'il ne se passe rien, c'est qu'il n'y a pas de foi que Dieu puisse honorer. C'est clair. Vous feriez mieux de rester chez vous à regarder un bon film de Louis de Funès ou de n'importe quoi. Vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Ou alors, vous pouvez faire autre chose. Vous pouvez dire déjà à ces gens avec lesquels vous priez et où il ne se passe rien que ben, c'est une religion qui est morte. Ça ne sert à rien de prier Dieu tout en sachant que Dieu ne va pas répondre. C'est idiot. Ou alors, troisièmement, ce que vous pouvez faire, c'est trouver un groupe de gens qui ont la même foi que vous et prier avec eux. Jésus dit, tiens, on va le lire dans Matthieu chapitre 28, chapitre 18, verset 19-21, il dit clairement, « Je vous dis encore, c'est Jésus qui parle, que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Vous voyez, quand le pasteur Gander de Puydoux me prêtait son église pour faire des réunions de prière, on n'était jamais plus de 3. S'il y en avait 4-5, ils attendaient dehors. Parce que Jésus avait dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Alors moi je disais, il ne faut pas être plus que 2 ou 3. Donc, ceux qui, on les faisait attendre dehors, et puis quand on avait fini de prier avec un, ben on demandait à quelqu'un d'autre de rentrer, puis on priait. C'est pas qu'on était des fanatiques, mais on avait l'amour de ce que Dieu dit. C'est difficile de se mettre d'accord pour demander quelque chose à Dieu. Alors quand vous avez 150 personnes qui ont tous des avis différents au sujet de la doctrine de la foi, ou de la guérison, ou de je ne sais quoi, ben, c'est presque normal qu'il ne se passe rien. Enfin, c'est comme ça que je comprenais, moi, les choses à l'époque. Maintenant, j'ai évolué. Donc, ne priez pas avec des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Qui ne sont pas d'accord. Par exemple, vous voulez prier pour une chose, et puis disant, ben non, moi je suis pas tellement d'accord, ben vous priez pas avec eux. Ou alors si vous dites, oh, ben, je pense pas que Dieu veuille que, ben vous priez pas avec eux. Ou si vous dites, oui, non, mais là, il faut pas exagérer, c'est du balai. Circuler, il n'y a rien à voir. c'est du temps perdu. Et puis en plus, c'est se moquer de Dieu. Jésus est clair. Deux ou trois d'entre vous qui s'accordent pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. Mais encore faut-il être d'accord. Alors je connais une flopée de chrétiens avec lesquels je ne prie pas. Je ne prie pas avec eux, ça ne sert à rien. Ils sont faussés dans leur foi. Ils sont pleins de complications dans leurs croyances au sujet de la foi. Ils ne veulent rien entendre en plus. Alors, ok ? Ben, je connais des gens qui disent « Oui, si quelqu'un est malade, c'est parce qu'il a péché. » C'est faux ! Comment pouvez-vous avoir la foi que quelqu'un va guérir si vous pensez que c'est parce qu'il a péché qu'il est malade ? C'est une idiotie. C'est une idiotie. J'ai pas de temps à perdre à m'amuser à prier avec des gens comme ça. Je refuse de prier, ça sert à rien. Ça sert à rien aussi d'essayer de convaincre ces gens-là parce qu'ils font semblant de pas comprendre. Ou alors, ils ne peuvent pas comprendre. Ça, c'est autre chose. Je prêcherai un jour, je prêcherai là-dessus. Jésus a dit, ils entendent mais ils n'écoutent pas. C'est-à-dire que pendant que vous parlez, ils ont un petit disque dans leur tête qui dit « Oui, mais moi, à mon avis, je pense que... » Ils n'écoutent pas ce que vous dites. À quoi ça sert? Vous allez user votre salive à parler à des gens qui n'écoutent pas. Ça ne sert à rien. Jésus dit « Ils entendent, mais ils n'écoutent pas. » Alors, ils ne comprennent pas. Ainsi, il leur arrive ce que le prophète Ésaïe a annoncé. Alors, on va lire ça dans Matthieu, chapitre 13 à 15. Voilà ce qu'il dit, Jésus. En voyant, il ne voit pas. Moi, j'ai vu des gens qui étaient avec moi. Je pense à un en particulier en Afrique qui a vu des miracles et qui dit « Moi, je n'ai jamais vu de miracle en Afrique. » Il les a vus, il était là. Mais il dit « Je n'ai jamais vu de... » Voilà. En voyant, il ne voit point. En entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. C'est pour eux, et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Ésaïe a dit « Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Ces gens-là ont peur de se convertir. Ils aiment mieux leur péché. Alors, ils prient, mais... C'est eux qui ont endurci leur cœur, qui ont fermé leurs oreilles, qui ont fermé leurs yeux, de peur de comprendre, et puis de se dire, « Ah, mais il faut que je me convertisse, parce qu'ils ont peur. Mais si je me convertis, je ne pourrais plus faire ceci, je ne pourrais plus faire cela, je ne pourrais plus... » Non, mais alors c'est pas possible, donc voilà, et puis alors, bon, ben... Alors de peur de se convertir et que je ne les guérisse, parce que si, quand quelqu'un est guéri par le Seigneur et que... Ensuite il fait n'importe quoi, Dieu n'est pas content. Hein. Je me rappelle d'une femme, c'était à Morges. Les gitans étaient venus et ils avaient prié pour elle. Elle avait un corset de plâtre qui allait du cou jusqu'aux pieds. Elle avait une dette calcification des os. Et quand Raphaël a prié, il a dit « Apportez-moi une scie ». Et devant tout le monde, sous le chapiteau, je crois qu'il y avait des centaines de personnes, il a scié le plâtre, la femme s'est mise debout, elle était guérie, elle est rentrée à pied chez elle, et tous les soirs, elle revenait avec son mari à la réunion, elle était guérie. L'année d'après, Raphaël revient avec Camélia, je me rappelle, sa belle-mère, Camélia. Et puis, Raphaël, il dit, et la sœur, je ne vais pas dire son nom, parce que, bon, c'est presque Jacques, mais ce n'est pas Jacques. Je vais. Elle dit alors, et la sœur, machin, là, comment elle va? Oh, ben c'est pire qu'avant. Comment ça, c'est pire qu'avant? Elle dit oui, c'est pire qu'avant, elle a un corset, elle souffre, c'est affreux, elle blasphème, elle dit que vous êtes des charlatans. Et tout. Et Camélia, la nuit, elle prie, et Dieu lui parle. Elle dit, je vais aller la trouver. Elle y va, elle arrive chez la sœur machin, puis elle lui dit, alors ma bonne sœur, qu'est-ce qui se passe? Oui, vous les gitans, vous êtes des manipulateurs, vous êtes des entourloupeurs, vous m'avez entourloupé, j'ai cru ce que vous avez dit, puis regardez dans quel état je suis, votre Dieu, c'est de la gnognotte et tout. Et Camélia lui dit, ferme ta petite bouche que j'ouvre la mienne. Elle disait toujours ça quand il y avait quelqu'un qui disait des choses qu'elle n'aimait pas. Ferme ta petite bouche que j'ouvre la mienne. Je vais te dire ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit que tu n'as jamais déclaré aux assurances sociales que tu étais guéri. Et tu continuais à toucher ton assurance invalidité alors que tu trottais comme un cabri dans les rues. Tu as menti et voilà pourquoi le mal est revenu. Mais comment c'est possible que tu saches ça? Dieu me l'a dit dans la nuit. Alors maintenant tu te repens et tu seras guéri. Elle a commencé à pleurer, elle s'est repentie, elle était guérie dans la semaine. Amen. Donc, de peur que je ne les guérisse, parce qu'ils savent très bien que si Dieu les guérit, et puis qu'après ils font les idiots, bah, il y a un prix à payer. Donc, ils veulent rien avoir à faire avec Dieu, juste un petit peu de religion, c'est tout. On prie, on va à la réunion de prière. Voilà, ça suffit. Moi, je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Jésus dit, ils entendent, mais ils n'écoutent pas. Ils ont fermé leurs yeux, ils ont fermé leurs oreilles, afin de ne pas comprendre avec leur cœur. Ils veulent comprendre avec leur cerveau, ils veulent disséquer la parole de Dieu, ils veulent faire des doctrines qui les arrangent. Eh bien, je vous le dis en vérité, il viendra un jour, à un moment donné dans votre vie, où vous serez obligé de vivre au pouvoir de votre foi, ou avec les conséquences de vos doutes. Alors, quand c'est écrit que dans Hébreu, ils guérirent de leur maladie, ben ça veut bien dire que ces gens de foi pouvaient tomber malades. Non? Ben alors. Donc, ils guérirent de leur maladie par leur foi. Malgré les épreuves de la vie normale sur cette terre, je dis toujours les impondérables, moi là, je me suis pété le tendon le tendon d'Achille. Et là, j'en ai encore pour 2 semaines à aller chez le kiné pour qu'il me fasse des massages. J'ai été opéré. Voilà, c'est des choses qui arrivent à tout le monde, qu'on soit chrétien, qu'on soit pas chrétien, ça peut arriver. C'est pas Dieu qui m'a fait tomber par terre, qui m'a cassé volontairement le tendon d'Achille pour m'embêter, pour je sais pas quoi. Non, j'ai même pas demandé à Dieu pourquoi je me suis cassé le tendon d'Achille que je vais à foutre. Qu'est-ce que ça peut faire? Ça arrive. Il y a des choses bien plus graves qui arrivent sur cette terre. C'est pas grave, ça. C'est opérable, c'est soignable, point barre. Puis je prie pour que la guérison s'établisse plus rapidement. Puis c'est tout. Alors, malgré les épreuves de la vie normale qu'on a tous sur terre, chrétiens ou pas chrétiens, ben, les chrétiens, on a la foi. Et notre vie, elle est entourée du charme de Dieu. Nous sommes remplis du Saint-Esprit, enivrés de Dieu. Jésus dit, soyez enivrés du Saint-Esprit et non pas du vin. Hein? Ayant reconnu sa voix, ayant accepté sa présence au centre de notre être, c'est-à-dire dans notre âme. Et cette présence, elle est toute puissante pour guérir, pour sauver, pour protéger. Voilà la foi. Croyez dans la bonté de Dieu, croyez que la vie vaut la peine d'être vécue, et votre croyance en fera une réalité. C'est votre croyance, c'est votre foi, c'est pas que Dieu peut pas ou que Dieu ne veut pas, mais il y a des lois dans la vie, tout marche avec des lois. Si vous sautez en bas d'un immeuble de 15 étages, que vous soyez chrétien ou pas, il y a une loi qui fait que vous allez vous écrabouiller en bas, puis c'est tout. Et puis c'est tout, comme dirait Gibus, mon copain suisse. Vous voyez? C'est la croyance fera la réalité de ce que vous croyez. Alors, ne vous identifiez plus à l'échec, ne vous identifiez plus à la pénurie, ne vous identifiez plus à la limitation. C'est des choses qui peuvent arriver. Ça arrive à tout le monde. David, il avait la foi. Ben, ça n'a pas empêché qu'il ait les pires problèmes du monde. Bon, vous me direz, il avait péché, c'est bien fait pour lui. Oui, bon, d'accord, ben, qu'il vous arrive la même chose si vous péchez. Ah non, ça ne tient pas debout. Il était puni, c'est vrai, mais il n'a pas été rejeté par Dieu. Dieu ne rejette pas, il relève. Vous savez, dans ma vie, j'ai appris à gagner avec plaisir et à perdre avec le sourire. Et j'ai toujours fini par obtenir ce que je voulais de bien. Par ma foi, par ma confiance en Dieu, par ma confiance dans la toute-puissance de Dieu qui rend tout possible à celui qui croit. Jésus le dit, tout est possible à celui qui croit. Qui croit quoi ? Ben, on va lire dans Marc chapitre 9, verset 23. Marc 9, 23. Alors, voyons. C'est lui qui le dit, vous pouvez le prendre au sérieux, c'est pas Michel Janton qui le dit, c'est Jésus qui dit. Si tu peux le croire, tout est possible à celui qui croit. Jésus dit, si tu crois, tout est possible à celui qui croit. Qu'est-ce qui est possible ? Tout ! À qui ? À celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit, c'est la loi de la foi, don merveilleux qui nous vient des cieux, que connaît le cœur droit. Oh, quel riche trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit, sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honore et le bénit. Quand l'ennemi fait trembler de peur en face du danger, croire au Seigneur affermit le cœur, la foi fait triompher. Oh, quel riche trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit, sa foi vaut plus que l'or, Dieu l'honore et le bénit. Dieu manifeste à celui qui croit la force de son bras. Le Tout-Puissant dit à son enfant, si tu crois, tu verras. Oh, quel riche trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit, sa foi vaut plus que l'or, Dieu l'honore et le Ça, c'est le genre de chant que je chante depuis le 1er juin 1968. Et je voudrais que vous l'appreniez. Vous l'avez maintenant sur révélationbible.fr. Alors apprenez-le, chantez-le et vivez-le. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne. Vous allez voir des choses merveilleuses si seulement vous croyez. Amen. Au revoir.